19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, bonsoir à vous à tous, ravi d'être avec vous, merci, que vous le savez, on démarre cette toute nouvelle semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Certains d'entre vous sont déjà en vacances, quelle chance clochette, oh là 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 là, la classe internationale. Et bien je vous souhaite de passer de bonnes vacances, mais surtout en compagnie de la radio BFM et des informés. Alors, au sommaire, et bien pour démarrer cette toute nouvelle semaine, d'abord, vous savez quoi ? Nous reviendrons d'abord sur les sujets qui nous animent, c'est le fameux remaniement gouvernemental, avec quelques secousses quand même, hein. Abad qui commence à faire parler de lui. Ça y est, il a fini par craquer. Clochette. On en parlera avec nos débatteurs influenceurs, le pouvoir d'achat et sa gueule de partout. Clochette. Sa gueule parce que ça va gueuler aussi sur le plateau, pardonnez-moi la trivialité du terme, avec nos débatteurs influenceurs, eh bien Amin Saha, le maire adjoint, notre représentant CGT qui est avec nous, Jimmy Dalidou, et l'ancien main du RAID, l'ex-policier Bruno Pomard, chroniqueur média aujourd'hui. Et puis, alors d'autres sujets aussi qui ont interpellé notre attention. Dominique Sopo, le patron des SOS Racisme, viendra nous parler de son concert de demain et de son événement. Ensuite, vous le savez, les 60 ans de l'indépendance d'Algérie. On continue d'en parler depuis la semaine dernière et encore cette semaine. Avec, cette fois-ci, vous savez quoi ? Un sociologue qui viendra nous donner son regard, évidemment, sur ces 60 ans d'Algérie. Et puis un film. C'est pour ça qu'ils sont là d'ailleurs, ils sont arrivés, ils sont tout en âge. Vous inquiétez pas, on va vous offrir à boire. Clochette ! Alors, ils sont avec nous, à la fois le réalisateur de ce film Héliopolis, vous savez, il y a quelques années, avec Jafar Ghassem, Aziz Boukroni, et puis aussi la star, paraît-il, Souhila Malem, que des stars sur ce plateau. Deux acteurs de renom qui viennent, et un réalisateur aussi, nous parler, vous savez quoi ? Ils sont en pleine actualité, justement. On parle d'indépendance, ils parlent de Sétif, du massacre, et bien, nous aussi, dans les informés, on va en parler. Voilà le programme. Et puis, 19h30, le billet d'humeur de Philippe Henry, maître Philippe Henry en guerre, qui viendra nous brosser, nous dresser son regard juridique sur l'actualité. Certainement de Damien Abad. Allez, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Vous inquiétez pas, je vais d'abord m'occuper de, prioritairement de ceux qui sont avec nous, évidemment, événement oblige. Donc Dominique Sopo, le président des SOS Racisme, est avec nous. Mon cher Dominique Sopo, bonjour monsieur le président.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Bon, merci. Vous êtes avec nous dans les informés, justement, pour nous annoncer un événement qui se tient demain de grande envergure. Ça se passe dans le cadre des 60 ans de l'indépendance d'Algérie. Alors, dites-nous tout et comment cela s'organise pour demain ?
Alors, effectivement, dans le cadre des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, surtout de l'indépendance de l'Algérie, nous faisons un événement comme nous l'avons fait pour les 60 ans du 17 octobre 61 ou les 60 ans du 19 mars, puisque nous sommes sur des dates particulières qu'il faut, je pense, surligner. Et demain, nous faisons alors plusieurs choses. C'est au TLM, au 105 rue de Curial, rue Curial dans le 19e arrondissement,
hein, oui.
Donc près de la gare Rosa Parks.
Oui.
Nous organisons plusieurs choses. Un débat avec des personnes qui sont issues de cette histoire, qui sont des petits-enfants souvent, ou des enfants, des petits-enfants de différents acteurs, et qui viennent dire en quoi il est important qu'il y ait, entre la France et l'Algérie,
oui.
Eh bien, quelque chose qui permette de dépasser cette histoire qui a été une histoire violente, une histoire traumatique, et qui continue souvent malheureusement à être, la source de tensions, voire de manipulations d'ailleurs, de part et d'autre de la Méditerranée. Et nous présenterons notre projet que nous défendons depuis plusieurs années avec des organisations de jeunesse, de la création d'un office franco-algérien ou algéro-français pour la jeunesse, pour justement favoriser les échanges,
oui,
entre les jeunesses des deux rives. Et enfin, nous finirons par
un concert
des sœurs Amour.
Oui.
Qui nous feront le plaisir terminer cette soirée de belle manière.
Un rendez-vous, si j'ai bien compris, à ne pas manquer. Ça se passe demain, monsieur le président, des SOS Racisme.
Tout à fait.
À quelle heure demain ? 18h30 demain.
À partir de 18h30, le concert est un peu plus tard, évidemment, et c'est une entrée gratuite, par ailleurs.
Chers amis auditeurs, si vous nous écoutez,
bienvenue.
et ils sont très nombreux à nous écouter. Demain, c'est bien un rendez-vous à ne pas manquer. C'est ça, Dominique Sopo.
Exactement, ce que je pense que c'est.
Rappelez-nous l'adresse.
Alors, c'est le 105 rue Curial, dans le 19e arrondissement. C'est entre la gare Rosa Parks et le métro Corentin-Carliou, pour ceux qui connaissent ce coin-là.
Eh bien, rendez-vous à ne pas manquer dans le cadre des 60 ans d'indépendance de l'Algérie. Merci, Dominique Sopo. Merci, monsieur le président d'SOS Racisme, d'avoir été
Merci
avec nous.
Merci beaucoup.
Et demain, évidemment, bel événement, je vous le souhaite.
Merci beaucoup, ce sera un bel événement.
Merci à vous, Aïssa Kadri, c'est notre aussi invité, un autre invité pour parler des 60 ans de l'indépendance d'Algérie. Professeur émérite de sociologie, justement, il est avec nous. Bonsoir, monsieur Aïssa Kadri.
Bonsoir, bonsoir.
Merci d'être avec nous, c'est un plaisir, justement. Alors vous, alors je note même pas les nombreux ouvrages que vous avez publiés. Instituteur et enseignant en Algérie 1945-1965, c'est vous. Ingénieur en Algérie dans les années 1960, c'est vous. Transmission des savoirs en situation coloniale, l'imposition du système d'enseignement, c'est vous. État, société intellectuelle, c'est vous. Mais le dernier qui retient mon attention, jeunes, femmes, réseaux sociaux au Maghreb, formes et acteurs de la participation aux politiques Maghreb, ça c'est aussi vous, aux éditions Brochet. Alors, je vous pose la question, monsieur Aïssa Kadri, sociologue émérite, justement. Quand on parle des 60 ans de l'indépendance d'Algérie, sans réfléchir, vous pensez à quoi ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ?
Moi, je pense à 62, justement, au moment de l'indépendance, c'est-à-dire aux journées qui ont fait suite, aux accords d'Évian, au référendum, le 1er juillet, disons à l'indépendance le 3 juillet, et tout ce qui a suivi après, c'est-à-dire la construction du jeune État-nation algérien. Voilà, je pense à ces années 62, à l'année 62 précisément, et je pense qu'il faut y penser aujourd'hui, parce que c'est un mouvement qui a été, paradoxalement, après les violences de l'été 62, qui ont atteint leur acmé, hein, ces violences, ça a été vraiment au plus haut niveau. Paradoxalement donc, après ces violences, les Algériens, avec les Européens qui étaient restés en Algérie, notamment les Témoins, il y en avait 200 000, hein, se sont mis ensemble pour construire le jeune État-nation algérien.
Alors, justement, monsieur Aïssa Kadri, l'Algérie s'apprête à fêter demain son 60e anniversaire de son indépendance. Célébration qui sera marquée notamment par une grande parade militaire. Demain, à vivre évidemment. J'ai envie de vous poser une question. 60 ans d'indépendance, est-ce qu'il y a toujours des plaies qui restent toujours à vif ?
Oui, évidemment, il y a toujours, et vous le voyez, c'est d'actualité, il y a ici ou là des souffrances, il y a des plaies, il y a des incompréhensions.
Malgré les gestes symboliques de la France ?
Oui, les choses perdurent. Hein. En fait, les Algériens attendent le grand geste, c'est-à-dire celui de la reconnaissance, disons, du caractère de la condamnation, de la colonisation, qui a été la violence à l'État, comme le disait Fanon, la colonisation, c'est la violence à l'État de nature. Hein. Et que donc, s'il n'y a pas une reconnaissance plus large... Je pense que les gens ici ou là ne seront pas du tout apaisés. La politique des petits pas, de donner aux uns et aux autres, disons, des gages et de répondre à leur souffrance, me semble que c'est pas la bonne. Hein. Évidemment, il faut faire ces petits pas, mais il y a une action à faire de fond qui est celle de reconnaître le caractère disons violent, le caractère condamnable de la colonisation.
Dernière question, mon cher Aïssa Kadri, qu'est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs qui s'apprêtent justement ?
Je reviens donc sur 62. Ce que je vous dis, c'est que 62 a été un moment vraiment de solidarité. Je donne toujours, par exemple, vous avez cité des ouvrages que j'ai écrits collectivement, notamment sur l'éducation. 62 a connu une rentrée scolaire avec 12 000 instituteurs pieds noirs.
Oui.
C'était très peu. il y a eu 12 000 instituteurs pieds noirs dans certains métropolitains, mais la majorité étaient pieds noirs, qui ont été voir le bureau politique à Oujda, qui ont fait la rentrée scolaire de 62. L'université algérienne a connu comme premier recteur André Mandoud, qui était directeur témoignage chrétien. L'électricité a démarré avec des ingénieurs français. Les institutions fonctionnaient dans la solidarité des jeunes cadres algériens qui rentraient de l'étranger et puis les pieds noirs qui étaient sur place. Il y a eu quelque chose qui était de l'ordre d'une rencontre qu'on aimerait revoir 60 ans après.
Merci d'avoir été avec nous, Aïssa Kadri. Merci. Je le rappelle, merci. Vous êtes.
C'est moi.
Et bien,
à demain.
À demain, absolument, demain, là, des rendez-vous. Voilà. Rappelez-nous d'ailleurs l'événement auquel vous participez demain, mon cher Aïssa Kadri.
C'est une conférence débat à l'Académie de géopolitique rue Comté à Paris, métro Arrêt Métier. Un débat autour, disons, de la réconciliation franco-algérienne et autour du bilan, disons, de l'indépendance algérienne.
Merci, à demain. Donc, rendez-vous à ne pas manquer. Donc, je le disais, à demain. Merci à vous. Merci. Monsieur Aïssa Kadri, donc, émérite sociologue. Tout de suite, les invités, c'est parti, sur le plateau.
Les informés, l'interview.
Et l'interview pour démarrer cette semaine, vous savez, c'est un film qui a fait parler de lui et qui va continuer de faire parler de lui, justement. Et dans les informés, on a décidé de consacrer une belle page, justement, une belle part même. Il s'intitule Héliopolis. Ils sont avec nous, tous les stars, les acteurs, les actrices sont là. Merci, bonjour, comment ça va? Je commence, tiens, par le... Toujours les femmes, toujours. Souhila Malem, bonjour.
Bonjour.
Bien dans le micro, bonjour, oui, il faut bien parler, vous connaissez les médias.
Bonjour,
hein.
Oui,
comment
oui.
Ça va?
Ça fait longtemps que je ne suis pas passée sur les radios.
Oui, il paraît qu'on parle beaucoup de vous hein, sur les réseaux sociaux.
Oui, oui, effectivement.
Là, ça parle, hein.
Bon, j'aime pas trop parler de moi, mais je suis un petit peu l'actrice populaire en Algérie.
Ah bah, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça, bravo. Hein.
Merci, merci.
Qu'est-ce que vous dites justement à tous celles et ceux qui vous écoutent?
Oui, je salue tous nos chers auditeurs, auditrices, et voilà, et je suis très, très contente aujourd'hui d'être parmi vous.
Et les auditeurs, s'ils veulent vous saluer, ils sont les bienvenus au 0153 48, oui, 3000. Vous savez que c'est Anna qui m'a parlé de vous. Hein.
C'est qui?
Anna, notre amie commune.
Oui, Anna.
Voilà. Ah ouais, elle m'a pris, attention, elle m'a mis la pression. Hein. Elle m'a dit, attention Adil, attention si tu la reçois pas
beaucoup,
sur le plateau.
Oui,
je sais que vous aimez beaucoup, je sais, on l'embrasse très fort.
Oui.
À vos côtés, un autre acteur aussi, vedette, star, c'est Aziz Boukrouni. Bonjour Aziz.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Tout va bien?
Oui, très
bien. Heureux de vous accueillir ici.
Eh ben, le plaisir est pour moi aussi.
Qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs?
Eh ben, je dis bonjour à tout le monde, à tous nos Algériens, aux patriotes, à nos fans.
Parce que vous arrivez d'Algérie, là, il faut leur dire. Hein.
Bah, comment?
Vous arrivez, là, depuis quelques jours, d'Algérie.
Oui.
Exactement.
On est là, ça fait deux jours.
Deux jours, à peine. Oui, et ils sont en exclusivité dans notre média.
Et puis, ouais, on est venu juste pour présenter le film à nos amis patriotes et puis même aux amis français.
Oui. Mais écoutez, on va en parler justement.
Venir voir le film.
Et on va en parler. Le réalisateur, le boss, Jafar Ghassem, bonjour.
Bonjour Aden.
Comment
bonjour
ça va?
Les auditeurs de Beurre FM, ça va, je vous remercie.
Alors parlons-en justement. Avant d'en parler, je souhaite évidemment faire découvrir à nos auditeurs un court extrait d'Héliopolis, le film qui fait parler de lui. Écoutons ça.
صعيبة في الأول صعيبة باش نفرض روحي على اللي يكونوا بصح جي با بيزي لي با اي جي لا شونس نشوفو لي دي باشولي
على تيان إذا ديجان ما يخلوهمش يديروا ليكول بوليتكنيك
شو راك دير محفوظ راك مال بيبيع عمي صدق فرحة عباس وليزي اليوم يخمو كيما حنايا دوكا On est sur le même combat. On est sur le même tête aussi, grande nouvelle, non?
L'homme qui réconcilie les indigènes avec la France.
L'homme qui complote, oui.
Ben, t'as l'homme qui m'a l'âge, si je fous pas.
Où est-ce que tu fais, l'homme? Normalement, tu frappes. Il y a eu de mon boycotté. Fallait que je me dise le maximum de l'argent que je supporte. Quand j'étais fait passer, je dirais.
Je ne sais pas si
je suis là. Je ne sais pas si je suis là.
Manifesta est une provocation dangereuse et gadrette à l'Iknakamel.
La France montre à nouveau au monde ce qu'est une grande nation. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement aveugle devant la montée en puissance des musulmans ?
L'histoire a toujours été ponctuée de moments charnières. Mais Massir Chou, يقدر يتبدل radicalement.
On a fait rayer la marche ou la habis raïsa.
Cette demande est une provocation de plus.
L'époque de l'assimilation chlast. Abad Rahim Kef pour la naissance d'une nation algérienne.
Les indigènes ont foutu la pagaille à cette île. Il y a des morts.
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les tuer, c'est ça?
C'est eux ou nous, Bertrand. Eux ou nous.
Héliopolis, justement, on est en plein événement puisqu'il y a les 60 ans de l'indépendance d'Algérie. Donc, votre film, il est plus que d'actualité, justement, monsieur le réalisateur, monsieur Jafar Gassem. Héliopolis, c'est un film qui retrace quoi au juste? C'est les événements tragiques du 8 mai 1954. Parlons-en, justement.
Encore, revenu en arrière de quelques années, on sera en 45.
45.
Oui.
Exactement. Donc, oui. Il retrace les événements douloureux de 1945.
Pourquoi vous aviez voulu, vous, réalisateur, de consacrer, poser des mots, poser des images, poser aussi pour retracer cet événement tragique? Vous vouliez laisser une trace?
Pas laisser une trace, mais je voulais marquer à travers ma fiction un pan de l'histoire coloniale algérienne très très important, à savoir que les événements douloureux en 1945 en Algérie, alors que dans le monde on fêtait l'armistice, la fin de la Deuxième Guerre, en Algérie quelque part, en Constantinois, il se passait des choses affreuses, c'est-à-dire, on va dire, un génocide. Donc, des milliers de morts, torturés, incinérés dans les fours à chaud d'Héliopolis, d'où le titre et la symbolique du titre du film. Et donc, je voulais montrer que c'était la dernière goutte qui avait débordé, qui après 9 ans, avait engendrer la guerre, les événements la guerre d'Algérie, la révolution algérienne qui a commencé.
On continue d'en parler puisqu'on signale qu'il faut lancer absolument la pub et on se retrouve tout de suite après, dans quelques minutes à peine, avec vous justement, Aziz Boukroni, Souhila Malem, le réalisateur qui est avec nous aussi, Jafar Gassem. À tout de suite.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et on continue d'en parler. Héliopolis, 0153483000. Vous souhaitez évidemment les soutenir. Demain, ça se passe sur plusieurs jours, mercredi et jeudi, si j'ai bien compris. Le réalisateur qui est avec nous, Jafar Gassem, Aziz Boukroni, l'acteur vedette du film Héliopolis, autre aussi comédienne vedette, Souhila Malem, qui sont avec nous. Ils viennent d'Alger, là tout de suite, d'Algérie. Donc, il y a à peine quelques jours. Alors, d'abord, ça se passe où et comment? Parce que évidemment, on va aller à l'essentiel maintenant avant de parler du rôle des comédiens et des acteurs. Monsieur le réalisateur, une projection est en vue, là, à Paris.
Oui, on est là pour ça,
oui.
Pour la promo du film.
Donc on invite tous les auditeurs à s'empresser.
Donc c'est gratuit au Centre culturel algérien le 6 et le 7,
oui,
de ce mois, et aussi le même jour, le 7.
À quelle heure?
À l'Institut du Monde Arabe, à 20h, toutes les projections.
Rappelez-nous le lieu et l'adresse, mercredi-jeudi.
Mercredi-jeudi, 6 et 7 juillet, à 20h. Au Centre culturel algérien à Paris. Donc, ce n'est pas compliqué à trouver, il faut juste mettre ça sur...
Et le jeudi?
Voilà, et le jeudi, le même jour aussi, le 7, à l'Institut du Monde Arabe, à 20h.
À 20h, rendez-vous à ne pas manquer, les amis auditeurs. Ils peuvent venir, c'est gratuit.
C'est gratuit. Oui.
Vous nous appelez là, je vous attends, 0153483000, vous nous donnez évidemment votre avis. Un film, évidemment, qu'il faut aller voir, chers amis auditeurs. Comment vous avez incarné, vous deux? Je vous pose la même question à vous deux. Comment vous avez incarné le rôle, justement, dans ce film Héliopolis? Ça a été simple d'endosser la bille, justement, quand on parle d'histoire tragique. Tiens, Aziz Boukroni.
Non, c'est pas évident, quand même.
C'est pas évident.
Bien sûr.
Comment vous avez fait? Comment vous vous êtes préparé à ce rôle?
Eh bien, d'abord, je suis comédien, je suis acteur, donc c'est mon métier. Mais c'est vrai que chaque personnage est tout à fait différent de d'autres. Et ce qui concerne le personnage sur Héliopolis, qui est le personnage de Mokhdad, je pense que c'est un personnage peut-être. Je pense qu'il est complexe. Il est. C'est un personnage qui est un peu dans le. Comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? C'est un personnage de. qui l'a plus, plus quelqu'un qui veut s'imposer d'abord en tant que fils de Gaïd par rapport à son statut social, etc. Et ça se dérive par rapport aussi à sa relation avec les colons. Mm-hmm. Et il doit, c'est-à-dire, confirmer cette... et puis voilà, donc... et en même temps, il y a le côté aussi de sa famille qui doit les protéger, qui doit...
Souila, Malem, pareil, oui. Même question. Évidemment, est-ce que ça a été difficile pour vous d'incarner le personnage ?
D'accord, ben, d'incarner le personnage, c'était pas trop dur pour moi, je dis la vérité, parce que j'ai l'habitude de parler, de travailler avec le réalisateur Jafar Qasem. Donc, on a ce.
Ça a matché tout de suite.
Exactement. C'est juste que les journées de travail étaient très, très dures, parce que.
Comme... Il vous a maltraité?
Non, c'est pas ça, parce que on était en plein mois de Ramadan. Et c'était
vous avez tourné en plein mois du Ramadan?
Oui, tout à fait.
Mais c'est dû être chaud, non?
Oui, j'ai un peu. Voilà, oui. Moi personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu dur pour moi.
Par jeûner contre, et tourner.
Oui,
et
tout à fait. Ouais. Et prendre la tasse de thé et sentir l'odeur du café.
Vous me tendez la perche. Pourquoi vous avez décidé de tourner, monsieur le réalisateur? Mais pourquoi vous avez décidé de tourner en plein Ramadan?
Monsieur le méchant réalisateur,
c'est ça.
Non, on n'a pas décidé, c'est un planning.
Oui, c'est un planning.
Voilà, c'est tout. C'était
producteur, donc il fallait suivre un cahier de charges et donc un planning.
C'est tombé pendant le mois du Ramadan.
Il y avait des Tunisiens, des Français, des Italiens, et nous autres les Algériens, et nous avons vécu un très bon moment de Ramadan ensemble.
Tout à fait, c'était une très très belle... Excuse-moi.
C'était une partie du tournage.
Oui, une partie. La deuxième partie, en fait. Je finis. Je vais pas trop parler sur mon personnage. Je préfère ne pas spoiler le personnage. J'invite les gens à découvrir le film et de venir nombreux pour voir le film, parce qu'il mérite vraiment d'être regardé et encouragé. Et voilà, on a voyagé déjà monsieur Jafar Qasem il nous a donné la possibilité de voyager à travers le temps, et on a vécu quand même des moments très 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 agréables avec nos amis français.
Et on continue d'en parler. Continue d'en parler, justement, parce que je voulais savoir qu'est-ce que vous retenez du film, justement, maintenant que avec un peu plus de recul, comment vous vivez ces événements, qu'est-ce que vous retenez de ce film. Même question aussi au réalisateur. Il est 19h30. Et vous savez, comme chaque lundi, eh bien, c'est Maître Philippe Henri Honegger qui est avec nous chez Ruben et Associés, qui vient nous livrer son regard sur son billet d'humeur, le Quoi de Neuf. C'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, bonsoir, bonjour Maître Philippe Henri Honegger. Vous nous avez manqué,
bonsoir.
Comment ça va?
Bah oui, j'étais très très occupé malheureusement par les assises, mais bon, je suis de retour. Avec plaisir.
Vous avez décidé de brosser justement un billet d'humeur concernant le bilan du procès du 13 novembre. On vous écoute.
Eh ben oui, parce que la saison se conclut un peu pour tout le monde, à la télé, à la radio et ailleurs. Et puis la saison se finit aussi par cette année qui a été marquée par ce procès des attentats du 13 novembre. Un procès absolument historique.
Exact, historique.
10 mois de procès, 20 accusés, 2500 victimes, des centaines de témoins qui sont venus à la barre raconter l'horreur de ces 132 morts qu'il y a eu lors du 13 novembre 2015. Un procès qui marque et qui va marquer profondément l'histoire de la France, mais également l'histoire de la justice française. Un procès quand même à l'issue duquel ont été prononcées deux perpétuités, dont une incompressible pour Salah Abdeslam, plus de 100 ans de prison au total, je crois qu'on est presque à 150 ans de prison qui ont été prononcés, avec des peines pour certains, un qui a été condamné, vous savez, à seulement 2 ans, enfin en tous les cas à 2 ans, alors que ça faisait 6 ans qu'il était en détention provisoire, et avec cette polémique, je ne sais pas si vous avez vu, le jour, il devait être libéré le jour même de l'audience, et puis les policiers sont venus le cueillir pour le remettre à nouveau en rétention judiciaire pour l'expulser, et puis d'autres aussi avec des peines un peu plus importantes, mais relatives à leur détention provisoire, qui font qu'ils vont sortir, certains, dans les semaines, dans les mois qui viennent, parce que tous ont fait de la détention provisoire très très longue. Alors, des critiques, évidemment, qui sont venues des avocats sur certaines peines prononcées ou sur certaines qualifications qui ont été retenues. Mais dans l'ensemble, un procès, il faut bien le dire, exemplaire. Un procès qui fait l'honneur de la justice française, qui a su prendre le temps, 10 mois c'est long, le temps d'écouter, le temps d'entendre, le temps de comprendre aussi. Et je crois que c'est une victoire, une vraie victoire de la justice sur l'horreur, une victoire de l'état de droit sur la violence. Et puis surtout un vrai soulagement. Un soulagement pour toutes ces victimes qui se disent on a enfin été entendu, on nous a reconnu dans ce qu'on était comme victime, on a pu comprendre, savoir ce qui s'est passé. À l'image du président, vous savez, c'était sa dernière audience. Il va partir à la retraite. Là, et il l'a conclu avec ces 10 mois-là, un président qui a été remarquable tout au cours de l'audience, qui a su garder son calme, qui a su donner la parole à tout le monde, qui a su, je crois, aussi écouter tout ce qui avait été dit. Une justice qui nous a permis aussi, nous collectivement, toute notre société, toute la France, quelque part, de faire notre deuil de ce qui a pu se passer ce jour-là, d'avancer. En réalité, une justice qui fonctionne. Vous voyez, une justice qui est à la hauteur de ce qu'on peut attendre de la justice. Et il faut le dire parce que toute l'année, je suis venu sur votre antenne pour vous dire souvent, justice, c'est pas super. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Et c'est vrai. Mais quand on voit ça, quelque part, on pourrait se dire, bah, c'est dommage qu'on fasse quelque chose d'aussi bien et que le reste du temps, ça se passe aussi mal. Moi, j'ai un peu le sentiment inverse. J'ai envie de me dire, regardez, on peut faire aussi bien. On peut faire aussi admirable, et ben ça veut dire qu'on pourrait faire aussi pour le reste. Et donc ça donne envie d'avancer, ça donne envie d'y croire, et ça donne, je vous le dis sincèrement, ça donne envie de croire à la justice et à son rôle essentiel qui est celui de la justice dans notre société. Alors moi j'étais pas avocat dans ce procès-là, mais je dois dire que pour l'avocat que je suis, c'est quelque part une forme de fierté de savoir qu'on est capable de rendre d'aussi belles décisions, qu'on est capable de traiter avec autant de dignité des événements qui sont aussi terribles, qu'on est capable, face à l'horreur, face à la violence de Daesh et de ses attentats, d'avoir répondu avec la dignité qui est la nôtre et qui fait la fierté et la beauté de notre système démocratique et de notre état de droit. Et donc, je voulais dire, parce que ça m'arrive pas souvent de le dire à votre antenne, qu'il y a des choses bien qui se passent. Et puis, c'est vrai, c'est la fin de l'année, c'est l'été, il fait beau. Bah, parfois, quand les choses se passent bien, faut dire, bah, tant mieux. Et je suis content de finir, en tous les cas, ce procès sur une bonne note. Alors, je finis, mais vous savez, c'est la fin de la saison. C'est comme toutes les belles séries. Il y a souvent des saisons 2. Et là, vous savez qu'il y en a certains qui ont déjà dit qu'ils feraient appel. Et donc, ça va recommencer probablement dans un an. Et on aura, eh bien, le procès qui se refera. Et je suis certain que ça sera aussi bien. Et c'est aussi une bonne chose que les gens puissent faire appel et qu'on puisse continuer. Voilà. Donc, je suis dit sur un petit rayon de soleil. Il le faut de temps en temps.
Bah, c'est tellement rare venant de votre part. Bravo pour ce billet d'humeur. Comment s'annonce votre été, mon cher maître Philippe-Orient Léguerre?
Eh bien, je suis sur la route des vacances.
Ah, vous continuez d'intervenir? La semaine prochaine, on
et je reviens évidemment très vite en pleine forme pour continuer à revenir avec mes coups de gueule.
Est-ce que lundi prochain vous êtes présent?
Mais évidemment que je serai là. Je serai
même
au soleil.
Il sera là. Bravo, respect. Oui. Maître Philippe-Henri Néguer chez Ruben et Associés. Merci infiniment. Prenez soin de vous et bon séjour.
Merci à vous. Bonne semaine.
Alors Aziz Boukrouni, Souila Malem, le réalisateur Jafar Gassem, à vous trois. Avec un peu plus de recul, qu'est-ce que vous retenez de ce film? Comment vous l'interprétez? Qu'est-ce que vous retenez? Avec le recul que vous avez aujourd'hui, Aziz.
Moi, je pense que
notre vedette.
Je pense que ce film a très 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 bien marché juste après sa sortie en Algérie. Là, il est en train de
carton plein.
Cartonné un peu partout là où il passe dans toutes les salles, c'est complet, c'est super. Chose qui est très 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 importante et intéressante pour moi et que j'ai retenu, c'est que ce film a un public d'une tranche d'âge entre 18 et 30 ans.
Jeune.
Chose
que...
16 ans,
on l'a
pas.
Oui, très jeune.
C'est bien pour l'histoire.
Ben oui, absolument. Qu'on l'a pas vu et vécu avec d'autres films qui traitent ce genre de thématiques, surtout sur l'histoire. Donc voilà, je dis tant mieux et j'espère qu'il va encore donner plus d'espace pour nos fans et les spectateurs ici.
Eh bien, justement, on va continuer de le faire vivre. Souhila Malem, même question.
En fait, moi, j'étais très, pas choquée, mais j'étais émue de le fait de voir les gens pleurer à plusieurs reprises dans la salle. Et sachant que c'est le premier long métrage de Monsieur Jafar Qassem aussi, voilà, c'était un honneur pour moi. Déjà, je suis trop fière d'avoir participé dans ce film. Et puis, voilà, je m'attendais pas le succès qu'il a fait en Algérie. On a fait la tournée nationale d'ailleurs, et les salles étaient vraiment, vraiment blindées. Les gens, ils étaient dehors, ils pouvaient même pas rentrer à la salle tellement que c'était
bravo à vous.
Et c'était voilà les youyou, les
ce qui explique votre carton sur Instagram. Vous drainez 5000, plus de 5 millions
de
followers.
Non, parti. Voilà, je fais aussi la comédie.
C'est bien.
La comédie, j'ai fait un gars, une fille version algérienne.
Oui, j'ai vu ça sur. Ça cartonne, hein?
Oui, c'est ça.
J'ai vu ça. Donc, très populaire.
Oui, très, très populaire.
Monsieur le réalisateur, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs?
Je veux juste dire que ce film m'a donné envie de faire d'autres films. C'est juste une participation à ma modeste façon de voir les choses par rapport à une génération de réalisateurs post-indépendance qui voient l'histoire différemment et qui proposent une lecture différente. C'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais c'est juste pour dire qu'il faut qu'on se regarde l'histoire en face, que ce soit des deux côtés de la Méditerranée.
Bravo. Et tu as bien bravo pour ce premier long métrage.
Oui.
Je dirais bravo aussi à lui parce qu'il a.
C'est ce que je viens de dire.
Il a bien bossé.
Bravo, respect à ce premier long métrage, Héliopolis. Bravo à vous deux, vedettes évidemment, acteurs, comédiens.
Merci.
Que l'aventure continue, je vous la souhaite.
Merci.
Héliopolis, Inch'Allah. Héliopolis, le film à ne pas manquer au Centre culturel algérien, ça se passe demain. Non, et ensuite,
mercredi.
Et ensuite, jeudi, à l'Institut du Monde Arabe.
Tout à fait.
Les amis auditeurs, il faut aller les soutenir, il faut aller voir le film.
Voilà. Lazem.
Merci.
Exactement. Merci à vous. Bon vent.
Merci beaucoup. Merci à Adil. Merci
avec grand plaisir. Et vous revenez quand vous voulez. Vous êtes
merci.
Chez vous.
Merci. C'est gentil.
À très vite. Avec beaucoup de retard, vous allez m'en vouloir. Hein, chers amis. Bruno Pommard.
C'est très intéressant.
Mais vous venez d'apprendre des choses.
Il y aura un côté pédagogique qui est intéressant parce que ce drame algérien, effectivement, a touché beaucoup de monde. Français.
C'est une star chez nous ici. Attention. Chroniqueur chez Hanouna.
Et je trouve que c'est très important. C'est très important d'en parler, de cette guerre d'Algérie qui a été une blessure pour tout le monde.
Absolument.
Et je crois que c'est important.
Absolument.
On va aller le voir.
Allez, messieurs, à tout de suite. Amine, ça, Jimmy Dalidou, vous allez pouvoir prendre place. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h48 à peine, vous savez quoi, le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face.
Alors le face-à-face, Adil Farkan, tout simplement. Adil Farkan. Allez, excusez-moi, je parlais en même temps aux comédiens qui me demandaient mon Insta. Alors je disais, mon Insta, c'est Adil Farkan. Bruno Pommard, Amine, messieurs, vous allez... Bon, on va faire un tour de table sur le remaniement. Allez, chacun un tour de table. Tiens, Amine, ça.
C'était quand même très intéressant d'entendre l'équipe du film Héliopolis qu'on salue et dont on ira voir le film. Non, mais sur le remaniement, moi, j'ai quand même quelques déceptions. La première, c'est qu'on croyait que la part belle était faite aux femmes avec la nomination de la première ministre Elisabeth Borne, avec une parité quasi parfaite puisqu'on a 21 hommes et 20 femmes dans ce gouvernement, mais il faut le dire, elles sont souvent secrétaires d'État ou ministres délégués plutôt que ministres de plein exercice. Et encore, si on va encore plus loin dans les ministères régaliens, on a quasiment que des hommes. Je crois qu'on n'a qu'une seule femme sur les quatre ministères régaliens. Donc, à la fois une petite déception, mais aussi très heureux parce que Olivier Klein, que je connais par ailleurs, qui est un élu...
Et qu'on a reçu à plusieurs reprises sur notre antenne. Et qu'on félicite d'ailleurs.
Qui fait un travail remarquable à Clichy-sous-Bois.
Fraîchement nommé ministre de la ville, chargé de la ville.
Nommé ministre du logement. Il a été... moi, et de la ville. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère excellent que nouvelle. Là où il sera, il continuera de défendre la Seine-Saint-Denis et les habitants de Clichy-sous-Bois.
Bruno Pommard.
Bah, écoutez, je partage ce que dit notre ami élu de Seine-Saint-Denis et je pense qu'effectivement, on s'attendait peut-être à un peu plus d'ouverture de la part du gouvernement et du Premier ministre et évidemment du Président de la République. Ce qu'il y a d'intéressant également, c'est qu'il y a eu quelques ouvertures sur le monde civil, si on peut appeler ça comme ça, avec le patron urgentiste qui est devenu Brown, qui est devenu ministre de la Santé. Bon, c'est une ouverture que je trouve intéressante. On a également sur l'aspect Abad, c'est-à-dire le remplacement d'Abad, qui était un vrai problème pour le gouvernement, sur l'handicap et la solidarité, avec le patron Jean-Christophe Combes, le patron, le DG de la Croix-Rouge, donc, oui. Qui sont des gens de la société civile, qui ne sont pas nécessairement des politiques. Bon, c'est vrai que peut-être un peu plus de gens de la société civile auraient été bien, effectivement. En même temps, il faut, sur les ministères régaliens, comme vous le disiez à l'instant, effectivement, des gens d'expérience. Je pensais à Darmanin qui a eu une ouverture à son enveloppe ministérielle un peu plus forte, puisqu'il gère l'outre-mer en plus du ministère de l'Intérieur, ce qui prouve que le président de la République, quand même, lui donne beaucoup plus de puissance.
Et le départ forcé de Damien Abad ?
Pardon ?
Le départ forcé ?
Bah, écoutez, oui, je pense que c'était une bonne chose. Oui. Il y a des plaintes qui sont en cours. Je pense que c'est une bonne chose en termes de qualité et de démocratie, tout simplement. Voilà, à un moment donné, on ne peut pas passer. On va attendre ce qui va se passer également avec M. Coquerel, il faut l'ajouter, qui est le président de la Commission des Finances, sur lequel il y a des soupçons qui pèsent. Bon, bah, il va falloir voir un petit peu ce que vont décider les élus au niveau du Parlement. Mais je crois que, voilà, encore une fois, on aurait peut-être un peu plus ouvert, avec du monde de la société civile. Voilà.
C'est vrai, beaucoup le regret d'ailleurs, c'est vrai ça.
Sarah Alayari fait son retour également.
Oui, Sarah, le retour. C'est votre copine, votre amie. Vous la soutenez, vous, hein ?
Oui, absolument. Mais parce qu'elle soutient quelque chose qui me tient à cœur, c'est le service national universel que l'on doit développer à outrance pour notre jeunesse. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je la soutiens.
Jimmy Dalidou.
Ouais, non, mais sur le remaniement, je pense qu'ils ont de toute façon tous les personnages. Il y a deux choses importantes. La première, c'est que tous les personnages, quels que soient les personnages, sont issus de la même classe sociale, c'est-à-dire la classe des plus riches. Ensuite, ils ont une feuille de route.
Et
la feuille de route, c'est quoi ? La feuille de route de tous les personnages, c'est le maintien de la domination du capital sur le travail. Ça, c'est leur feuille de route générale.
Jimmy a souvent ce.
Moi, je dirais, je suis pressé. Franchement, je suis content parce que je pense qu'on va arriver à un moment. Bah, il faut que ce gouvernement des riches.
D'ailleurs, vous avez commencé à annoncer.
Vous
avez annoncé un mouvement.
Ah oui,
c'est
tout à fait. D'ailleurs,
annoncez-le, tiens.
Alors, le 6 juillet, j'annonce un mouvement chez les cheminots.
Oui.
Une grève dans les transports.
C'est le fameux quatrième tour. C'est
un peu alors nous revendiquons là. Alors deux choses. Augmentation des salaires et extension de la revendication à tous les secteurs, que ce soit public ou privé. Augmentation des salaires pour tous les travailleurs publics.
Bruno, prenez vos poses une question.
Pourquoi bloquer des gens qui partent en vacances, qui ont travaillé toute une année?
Ça c'est vrai. Bonne question.
Moi je trouve que c'est déplacé. Ça a été le même cas avec l'affaire du Stade de France et la RATP qui était en grève.
C'est pas de notre faute. C'est le gouvernement, c'est le gouvernement.
Vous prenez en otage les voyageurs.
Les responsabilités viennent du gouvernement. Parce que ça fait un petit moment qu'on exige qu'il y ait augmentation des salaires pour le public ou le privé. Et c'est maintenant qu'il y a négociation. Le 6 juillet, il y aura négociation.
Ça, vous dites quoi, vous ?
Non, et il faut appuyer les négociations pour qu'il y ait augmentation des salaires.
Que ce soit le moment pour eux, puisque c'est au moment où ils sont les plus utiles, ouais, qu'ils se mettent en grève.
Mais pour tous les travailleurs.
L'impact le plus important, c'est normal. Après, on prend ses dispositions pour essayer de.
Mais j'appelle aussi les usagers à soutenir les cheminots, parce que c'est pour eux qu'on se bat aussi.
Mais pas comme ça, Jimmy. Encore une fois, je comprends la grève. J'ai aucun souci là-dessus. Il faut augmenter les cheminots, etc. J'ai aucun souci. Mais le faire au moment des vacances, je trouve que c'est.
Alors, l'axe central de la grève, c'est évidemment l'extension des revendications à tous les secteurs de production, pour tous les travailleurs. Et je finalisais sur ce que je disais, moi, par rapport à ta question. Je pense qu'il faut arracher ce gouvernement riche et le transmettre aux sociétés populaires, transmettre ce gouvernement à la classe ouvrière et couche populaire.
Ça a été fait.
Là, c'est la véritable solution. Et là, pour le coup, là, l'augmentation des salaires, on va l'avoir immédiatement.
Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Vous savez ce que je vous propose, c'est de reconduire ce même débat. Bruno Pommard, mercredi, ça vous va ? Non ?
Jeudi.
Allez, c'est noté, je compte sur vous, messieurs.
Pas de soucis.
À la réalisation, c'était Yanissa. Demain, avec autant de plaisir, demain, je reçois l'organisateur du grand, vous savez quoi, combat attendu. ça se passe dimanche prochain, samedi et dimanche prochain, combat MMA.
Ça, c'est chaud, ça. Ça, c'est chaud, ça.
C'est attendu au Cirque d'Hiver à Paris. Bon, ça va cogner. Hein.
À des prix terribles.
À des prix terribles. Ben, c'est déjà complet. Ouais. C'est déjà complet. Demain, je reçois l'organisateur. Ben, tiens, on va faire gagner des places. Tu veux choper ta place demain?
Les MMA, j'en ai fait. Moi, tu sais, j'ai fait tous les débuts quand j'étais au raid du MMA, c'est-à-dire pieds-poings et combat corps à corps, parce que je suis lutteur, moi. Donc, j'ai commencé il y a très longtemps ce genre de discipline que j'adore.
Et ben
c'est
voilà.
Pour ça qu'après,
demain,
les
on reçoit l'organisateur.
C'est pour ça que vous entraînez dans les quartiers populaires.
On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.